Première des choses qu'on va voir de la vie de Jésus, c'est que Jésus avait des mains. Tu peux la mettre à la première photo, s'il te plaît. Jésus avait des mains avec de la corne dedans. Et je comprenais bien que c'est vraiment juste une façon imagée. Si vous n'avez pas de corne dans vos mains, vous n'êtes pas dans le péché. C'est l'image que je veux donner que, de fait que Jésus utilisait ses mains pour travailler. Jésus était reconnu comme un charpentier. Regardez le verset 3. N'est-ce pas le charpentier? Jésus est revenu dans sa patrie et puis là, il faisait des miracles. Et les gens qui le voyaient disaient, mais voyons donc, comment ces miracles peuvent s'opérer par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? Quelle réputation est-ce qu'il avait, Jésus? Il avait la réputation d'un homme qui travaillait le bois, comme Joseph, qui était un charpentier. Et on comprend que Jésus, au travers de son enfance, a appris le métier de charpentier. Et lui aussi, il a travaillé le bois. Lui aussi, il a utilisé ses mains. Et les gens le reconnaissaient de dire, « Mais c'est le charpentier du village, lui, on le connaît. » Et il travaille pour son père. Et puis, comment ces miracles-là s'opèrent maintenant? Alors, il avait la réputation d'un homme qui travaillait. Jésus ne mangeait pas le pain de paresse. Jésus était à l'œuvre et ses mains, il avait des mains de serviteur. Souvenez-vous qu'est-ce qu'il dit le texte, Marc 10, 45? Il est venu non pour être servi, mais pour servir. Jésus utilisait ses mains, il était reconnu comme charpentier, mais on voit que Jésus, les miracles qu'il veut faire maintenant, c'est pour être aussi à l'œuvre de son Père céleste, faire son œuvre et d'établir le royaume. Et Jésus, en venant, il voulait utiliser ses mains comme un serviteur pour pouvoir servir aussi les gens, pour pouvoir leur témoigner aussi de ce qu'ils avaient à entendre. Et vous vous souvenez, c'est un texte que j'ai prêché hier au mariage, quand Jésus était dans la chambre haute, puis qu'il a enlevé son vêtement, il a pris un bol d'eau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds, il a pris ses mains, puis il a servi ses apôtres. Il s'est humilié devant eux, puis il a lavé les pieds de ses apôtres. Il a utilisé ses mains pour servir ses apôtres. Jésus n'était pas quelqu'un qui était le maître, mais il utilisait les mains pour servir, pour travailler. Il était à l'œuvre. Et j'imagine facilement Jésus qui, avec ses apôtres, marchait et voulait aider les gens, voulait aider ses apôtres aussi. Peut-être qu'il aidait lui aussi à préparer le feu, à tirer les filets, mais il était le maître, il demeurait quand même le maître. Et comment est-ce que nous, on met ça en pratique dans nos vies? Il y a une parenthèse que je vais aborder, puis je ne savais pas si j'allais l'aborder, parce que je me dis c'est peut-être banal, mais en regardant les textes dans les Écritures, je me rends compte qu'on ne peut pas passer à côté. Jésus était un charpentier. Oui, Jésus, un jour, il a transféré, je peux dire, son travail de charpentier à le Messie. Il a toujours été le Messie, mais il est passé d'un moment où ce que il a établi, il voulait établir le royaume. Et il voulait justement l'établir et servir. Mais il était charpentier avant ça. Et est-ce que le travail pour le croyant, c'est quelque chose de banal? Est-ce que le travail pour nous, on le considère comme une malédiction? Est-ce qu'on le considère comme quelque chose qui nous nuit? Ou comme quelque chose qui est bon pour nous. Et je vous invite à tourner dans Ecclésiaste. Gardez un doigt dans Marc, puis allez voir dans Ecclésiaste. Vous vous souvenez quand Adam et Ève étaient dans le jardin, Dieu leur avait donné le travail de s'occuper du jardin. Ils devaient en prendre soin, ils devaient le cultiver. Et c'était avant le péché. Mais après le péché, qu'est-ce qui s'est produit? Dieu a révélé le fait que la malédiction n'est pas le travail, mais qui est l'ardeur au travail maintenant. Ou ce que maintenant, c'est les sueurs qui allaient couler du front, ou ce que la terre allait être difficile à travailler, que c'était ça qui allait être la malédiction. Oui, il y a des souffrances qui sont reliées au travail, mais le travail comme tel est une bénédiction que Dieu nous donne. Et regardez dans Ecclésiaste 3, les versets à partir du verset 9. Vous avez trouvé Ecclésiaste, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, à partir du verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Mais il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puissent pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là quoi? Un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Dieu est à l'œuvre. Dieu, ses mains sont encore à l'œuvre du commencement jusqu'à la fin. Et comment est-ce que l'homme maintenant, lui, se comporte? Il mange, il boit, il jouit du bien-être au milieu de quoi? De son travail. Le travail que Dieu nous donne est une bénédiction pour nous. Et regardez, on va juste aller un petit peu plus loin aussi. Regardez le verset 22. « Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qu'il sera après lui? » Et on va tourner dans le chapitre 5, juste un petit peu plus loin, à partir du verset 17. « Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout son travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de sa vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. » Dieu veut qu'on travaille. Dieu lui-même nous a donné un exemple. Et là, j'aurais pu ouvrir encore la parenthèse encore plus grande en regardant comment est-ce que Dieu lui-même est intervenu pour créer le monde. En 6 jours, il a tout créé. Qu'est-ce qu'il a fait le 7e jour? Il s'est reposé. Et là, je ne peux pas, selon mes compétences, poser un diagnostic sur notre société. Mais je réalise une chose, par exemple, c'est qu'il, puis peut-être ça l'a toujours existé, il y existe de la paresse, de la oisiveté, il existe aussi de l'activisme, de l'hyperactivité, où ce qu'on pourrait travailler 7 jours sur 7, sans jamais repos, et faire beaucoup d'heures, et de l'autre côté, on pourrait aussi se croiser les mains et rien faire. Mais l'un comme l'autre nous nuit à nous, parce que Dieu veut qu'on travaille, Dieu veut qu'on prenne l'exemple de ce qu'il nous a donné, de travailler 6 jours, de se reposer le 7e jour. Et là, si vous avez le samedi, dimanche, c'est pas le point que je veux dire, que vous avez 2 jours de repos, c'est pas bien. Mais il y a un équilibre à rechercher de ce que Dieu a établi. Et dans cet équilibre-là, Dieu veut qu'on travaille, Dieu veut qu'on utilise nos mains et qu'on soit équilibré dans ce qu'il veut qu'on nous donne. Pourquoi est-ce que je ne peux pas poser de diagnostic, mais je pose des questions. Il y a beaucoup de burn-out dans notre société. Il y a beaucoup de dépression. Il y a une très forte aussi tendance au suicide. Et j'imagine que c'est relié beaucoup au déséquilibre aussi, qu'il pourrait y avoir dans nos vies, et aussi du découragement, qu'il pourrait y avoir aussi à cause du péché. Mais Dieu veut qu'on prenne son exemple. Et c'est une vérité des Écritures qui n'est pas négligée. C'est pour ça que je disais, du premier regard, ça paraît banal. Mais c'est une vérité qui est répétée dans les Écritures. J'aimerais que vous retourniez dans, bien, on est dans Ecclésiaste, au chapitre 4. L'exemple de Jésus qu'il nous laisse, c'est que Jésus n'était pas un homme oisif. Jésus n'était pas un homme paresseux. Jésus n'était pas un hyperactiviste aussi, où ce qu'il était partout. Il faisait beaucoup de choses, mais il était équilibré dans ce qu'il faisait aussi. Et il utilisait les mains, ses mains, pour faire ce que Dieu voulait, ce que son Père voulait qu'il fasse. Regardez dans le chapitre 4, versets 5 et 6. « L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. » Mais quand on se croise les mains, quand on est paresseux, ben c'est à notre propre perte. De l'autre côté, regardez le verset 6. « Mieux vaut une main pleine avec le repos que 2 mains pleines avec le travail et poursuite du vent. » Ce que Salomon est en train de dire, mieux vaut travailler, d'avoir une main pleine, de pouvoir manger ce qu'il y a dans notre main et de se reposer, que d'avoir 2 mains pleines et continuellement du travail et finalement poursuite du vent. L'un comme l'autre ne sont pas bons, mais l'équilibre que Dieu lui-même nous a montré à travers l'œuvre de la création, à travers même la vie de Jésus, veut qu'on reproduise ça aussi dans nos vies. Et c'est une application vraiment très terre à terre, mais qui en même temps nous permet de jouir de la part que Dieu nous donne sur la terre, au milieu de notre travail. Et d'avoir cette paix-là aussi que Dieu nous donne. Regardez, on va revenir dans Marc 6. Mais juste avant, allez dans 2 Thessaloniciens 3. À partir du verset 10. Jusqu'au verset 12. 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on travaille? C'est ce que le texte vient de dire ici. Que celui qui ne veut pas travailler, mange pas. Et que celui qui veut manger, mais qu'il travaille paisiblement aussi. Et même Paul appelle ça du désordre, cette oisiveté-là, cette paresse-là qui est du désordre aussi. Dieu nous encourage à travailler et à jouir même du travail que Dieu nous donne, à en profiter, parce que ce n'est pas une malédiction. Oui, il y a une ardeur au travail qui est donnée à cause du péché, mais le travail est une bonne chose. Et je sais qu'il pourrait y avoir différentes situations parmi nous, savoir des étudiants, des travailleurs, peut-être même des retraités, mais le point est que, comment est-ce que Dieu veut qu'on utilise nos mains? Nos mains, on peut les utiliser pour son œuvre aussi. Dieu veut que l'on soit en action pour son œuvre, qu'on soit des serviteurs comme ce que Jésus lui-même l'a été aussi. Être au service de mon frère, de ma sœur, de ma communauté. On a tous, enfants de Dieu, reçu un don de l'Esprit. Qu'est-ce que l'on fait avec ce don-là? C'est un don que Dieu veut qu'on utilise et qu'on mette en pratique, que l'on œuvre. Et peut-être que ces dons-là ne font pas partie d'une manifestation directe de nos mains. Par exemple, si vous... vous avez le don d'enseignement, peut-être que vous utiliserez vos mains différemment, mais si vous avez différents dons, bien, c'est de les mettre à l'œuvre pour l'avancement du royaume aussi. Dieu veut qu'on soit des serviteurs et qu'on soit engagé dans son service. Dieu m'a outillé pour son œuvre et veut que je le mette en pratique. Jésus, sur terre, il avait des mains à l'œuvre. Il avait des mains de charpentier et un jour, il a travaillé pour son Père céleste, pour l'établissement du royaume, et il était encore à l'œuvre, ou encore au travail. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est un encouragement pour nous de reproduire ça aussi, mais c'est un encouragement pour nous de savoir que Jésus, ses mains, que les mains de Dieu sont encore à l'œuvre dans nos vies aujourd'hui. Les mains de Dieu sont à l'œuvre dans votre vie encore. Et les mains de Jésus sont encore à l'œuvre aujourd'hui, puis Jésus, c'est comme un potier. Ce n'est pas un exemple que j'ai inventé, c'est un exemple qui est dans les Écritures. Si on est des enfants de Dieu, on est des vases que Dieu veut modeler. Et que Dieu va poser ses mains sur nos vies et qu'il va nous transformer, qu'il va nous tourner, qu'il va nous rendre semblables, de plus en plus semblables à lui. Mais il faut lui laisser cette accessibilité-là aussi. Il faut lui donner cette accessibilité-là. Il faut rester malléable en tant qu'argile aussi, de ne pas se sécher trop vite dans nos vieilles habitudes, mais de se laisser prendre par les mains de Dieu et de dire, Dieu, continue de me transformer. Et Dieu a des mains douces qui nous transforment tranquillement et il a du plaisir à le faire. Un enfant de Dieu qui a séché peut-être trop vite, il va peut-être être obligé de casser un peu puis de reprendre. Puis ça fait mal. Ça fait mal les épreuves. Mais les mains de Dieu sont dans nos vies et nous transforment encore. Il met sa main sur moi pour prendre soin de moi aussi. Jésus a des mains de travailleur. Jésus a des mains aussi compatissantes. Regardez, revenez dans Marc 6. On peut relire les versets 2, à partir du verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Regardez aussi le verset 5. Il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il lui imposa, qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus était quelqu'un qui était ému de compassion pour les gens. Quand Jésus marchait puis voyait une foule, il était ému de compassion parce qu'il aimait les gens. Il aimait les hommes perdus. Il voulait qu'ils soient sauvés. Et Jésus était ému de compassion. Et c'est pourquoi il enseignait dans les synagogues. C'est pourquoi il enseignait. C'est pourquoi il faisait des miracles pour confirmer son enseignement. Mais les gens, ils s'étonnaient de quoi?